Chapitre 10. Résolution. Au dire de tous, Kébal Pincru et la femme pâle ont péri au cours du dernier mois. Ils ont embarqué à bord du seul navire blanc qui se rendit encore à Yolikei, avec pour équipage leurs partisans les plus résolus. Nul ne les a plus revus, et on n'a retrouvé aucun débris du bateau. On suppose généralement que, comme ce fut le cas pour bien d'autres bâtiments d'outre-mer, les dragons les ont survolés et ont jeté les hommes dans une hébétude complète avant de détruire le vaisseau à l'aide des bourrasques et des vagues violentes que leurs ailes pouvaient susciter. Comme il était lourdement chargé de ce que l'on traduit de l'outrilien par « pierre de dragon », il a sans doute sombré rapidement. Rapport à Imbre tombe étoile, rédigé à la fin de la guerre des pirates rouges. Je pris à pas lents le chemin des appartements de Cire Dorée. J'essayais de ne penser qu'aux difficultés du prince, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander dans quel nouveau pétrin je m'étais fourré. Je peinais à instruire le prince, or c'était un élève aimable et doué. J'aurais de la chance si l'ours ne me tuait pas quand je voudrais en faire autant avec lui. Cependant, mes réflexions se teintaient d'une obscurité plus pesante. Imbre avait réussi à me tenter, comme seul pouvait y parvenir quelqu'un qui me connaissait bien. Orti à Castelserre, là où je pourrais la côtoyer tous les jours, la voir s'épanouir et devenir femme, et peut-être lui donner accès à une existence plus facile que celle que Burick et Molly pouvaient lui offrir. Je m'efforçais de chasser cette idée de mon esprit. C'était un espoir égoïste. Dans les passages secrets d'Imbre, je fis un petit détour par un des postes d'observation. Là, je restai un moment hésitant. Ce serait la première fois que je m'y installerais intentionnellement pour espionner. Je finis par m'asseoir en silence, sur le banc poussiéreux, et collai mon œil au trou qui donnait sur la suite de la Narchesca. La fortune me sourit. Les plats du petit déjeuner étaient encore disposés sur la table entre Péotre et la jeune fille. Ni l'un ni l'autre ne paraissait y avoir guère touché. L'homme avait déjà revêtu sa tenue de monte en cuir. Eliania portait une ravissante petite robe bleue et blanc, gonflé d'une foison de dentelle au poignet et à la gorge. Péotre secouait la tête en regardant sa nièce. « Non, mon enfant. Comme pour un poisson, tu dois d'abord le ferrer avant de pouvoir jouer avec lui. Manifeste ta colère, et il évitera ce goût amer pour suivre les plumes éclatantes et l'œuf savoureux de l'appât d'une autre. Tu ne dois pas lui montrer tes sentiments, Elia. Écarte l'insulte et feins de ne pas l'avoir remarqué. » Elle fit violemment claquer sa cuillère sur la table, projetant sur le bois un globule de gruau.
« Je ne peux pas. Je suis restée aussi calme que j'en étais capable hier soir. Mais ce matin, il me faudrait un poignard affûté pour lui exprimer ce qu'il m'inspire, mon oncle. »
« Ah, voilà qui servirait bien les intérêts de ta mère et de ta petite sœur. » Il n'avait pas haussé le ton, mais le visage d'Eliania se figea comme s'il lui avait dit que la maladie et la mort se tapissaient dans la pièce voisine. Elle inclina son fier menton, les cils baissés. Je perçus l'effort de volonté qu'elle accomplit pour brider sa fureur, et je pris conscience soudain des changements que ses mois de séjour à Castelserre avaient opérés en elle. Certes, Péotre l'appelait toujours « petit poisson », mais la jeune fille que j'avais sous les yeux n'était plus celle que j'avais observée précédemment dans ses appartements. Sous les coups de bélier de la société de Castelserre, les derniers vestiges de l'enfance l'avaient quittée. Et elle s'exprimait désormais avec la fermeté d'une femme.
J'agirai pour le bien de la maison de nos mères, mon oncle, vous le savez. Pour ferrer ce poisson, je ferai tout ce qui sera nécessaire.
Elle releva le regard vers lui. Le pli de sa bouche était résolu, mais des larmes brillaient dans ses yeux. Non, pas ça, répondit-il à mi-voix. Pas encore, et peut-être jamais. « C'est ce que j'espère. » Il soupira tout à coup. « Mais il faut te montrer agréable avec lui, Elia. Il ne doit pas voir ta colère. Bien que cela me déchire le cœur de te le dire, tu dois feindre que son insulte ne t'a pas touché. Souris-lui. Fais comme si rien ne s'était passé. »«
C'est encore insuffisant. »
Je ne voyais pas qui avait parlé, mais j'avais reconnu le ton de la domestique. Elle entra dans mon champ de vision, et j'en profitai pour l'étudier plus attentivement. À peu près de mon âge, elle était vêtue simplement à la façon d'une servante, mais elle se comportait comme si elle détenait toute autorité. Ses cheveux et ses yeux étaient noirs, son visage large et son nez petit. Elle secoua la tête. Elle doit paraître humble et docile. Elle s'interrompit et je vis Péotre crisper les mâchoires, le visage tendu. Cela fit sourire la femme. Elle poursuivit avec un plaisir manifeste. « Et vous devez lui laisser espérer que vous vous donnerez peut-être à lui. » Elle prit une voix plus grave. « Soumettez le prince fermier Eliania et maintenez-le ainsi. Il ne doit pas en regarder une autre. Il ne doit même pas imaginer qu'il puisse coucher avec une autre avant le mariage. Il doit vous appartenir exclusivement. Il faut vous l'approprier corps et âme. Vous avez entendu la mise en garde de la dame. Si vous échouez, s'il s'écarte de vous et fait un enfant à une autre, vous et les vôtres êtes condamnés. »
« Je n'y arrive pas !»
s'exclama Eliana. Elle prit sans doute le regard horrifié de Péotre pour un reproche, car elle continua d'un ton éperdu.
« J'ai fait des efforts, oncle Péotre, je te le jure, j'ai dansé pour lui. Je l'ai remercié de ses cadeaux et j'ai feint d'être ravi en écoutant ses bavardages assommants dans sa langue de fermier. Mais tout est vain, car il me considère comme une petite fille. Il ne voit en moi qu'une enfant sans intérêt, un cadeau de mon père destiné à sceller un traité. »
Son oncle s'adossa dans son fauteuil en repoussant son assiette, à laquelle il n'avait pas touché. Il poussa un profond soupir et tourna un œil noir vers la servante. « Tu l'entends, Enya. Elle a déjà essayé ta répugnante petite tactique, et il ne veut toujours pas d'elle. C'est un garçon qui n'a pas de feu dans le sang. J'ignore ce que nous pourrions faire de plus. » Eliania se redressa tout à coup sur son siège.
« Moi, je sais. »
Son menton s'était relevé. La flamme de ses yeux d'un noir d'encre s'était rallumée. Péotre secoua la tête. « Eliania, tu n'es qu'une... »«
Je ne suis plus une enfant. Je ne suis plus une petite fille depuis qu'on m'a imposé ce fardeau. Mon oncle, tu ne peux pas me traiter comme une gamine et attendre des autres qu'ils me regardent comme une femme. Tu ne peux pas m'habiller comme une poupée, m'ordonner de me montrer aussi aimable et docile que la chouchoute d'une vieille tante sénile et espérer que je séduise le prince. Il a grandi dans cette cour, au milieu de ces femmes douceâtres comme du poisson avarié. Si pour lui je ne suis que l'une d'entre elles, il ne me verra même pas. Permets-moi d'agir comme l'exige la situation, car tu sais aussi bien que moi que, si je ne change pas de cap, nous allons échouer. Laisse-moi essayer à ma façon. Si je trébuche sur ce chemin-là aussi, qu'aurons-nous perdu ?
Il la dévisagea un long moment sans répondre. Elle se détourna de son regard perçant et s'occupa les mains en versant de la tisane dans les tasses devant elle. Elle prit ensuite la sienne et en but une gorgée en évitant toujours de lever les yeux vers son oncle. D'une voix chargée d'angoisse, il demanda enfin : « Qu'as-tu en tête, petite ? » Elle posa sa tasse.
Pas ce que propose Enya, si c'est ce que tu crains. Non. La femme que je suis suggère que tu révèles mon âge au prince, aujourd'hui même, selon son calendrier de fermier et non celui des runes du dieu. Et que pour ce jour, tout au moins, tu me laisses me vêtir et me conduire comme une vraie fille de la maison de nos mères. Insulter comme je le suis qu'il ait préféré la beauté d'une autre à la mienne et l'annoncer à tous. Laisse-moi le soumettre, comme tu me l'as ordonné. Non par des sucreries écœurantes, mais par le fouet, comme le mérite le chien qu'il est. Eliania, non ! Je l'interdis ! »
La servante s'était exprimée d'un ton cassant. Mais ce fut Péotre qui lui répondit. Il se dressa brusquement, sa grande main levée.
« Dehors, femme ! Loin de ma vue où tu es morte ! J'en fais serment, madame. Si votre servante ne sort pas immédiatement, je la tue. Vous le regretterez ! »
gronda Enya, en quittant néanmoins la pièce à pas presser. J'entendis la porte se fermer derrière elle. Quand Péotre reprit la parole, ce fut d'une voix lente et monocorde, comme s'il voulait écarter Eliania d'un précipice par la seule force de sa parole. « Elle n'a pas le droit de te parler ainsi. Moi, si, Narjeska. Je te l'interdis. »«
Vraiment ? »
demanda-t-elle en le regardant sanciller, et je compris que Péotre avait perdu la partie. On frappa à la porte. C'était le père de la jeune fille. Il entra, salua l'oncle et la nièce, et sa fille prit congé presque aussitôt en affirmant devoir se vêtir pour une promenade avec le prince en milieu de matinée. Dès qu'elle fut sortie, Son père se mit à entretenir Péotre d'une cargaison de marchandises en retard. L'autre lui répondit, mais sans quitter des yeux la porte par où Eliania avait disparu. Peu après, je pénétrai discrètement dans ma propre chambre et de là, avec encore plus de circonspection, dans les appartements bien chauffés et spacieux de cire dorée. Attablé, seul, il terminait sa portion du copieux petit déjeuner qu'il commandait chaque jour pour nous deux. La cour entière devait s'étonner de sa taille souple, étant donné l'appétit matinal qu'il manifestait. Son regard d'or me parcourut des pieds à la tête, alors que j'entrais sans bruit.
Assieds-toi, Fitz. Je ne te souhaite pas une bonne matinée, car il est visiblement trop tard. Aurais-tu envie de me faire partager ce qui a de la sorte assombri ton humeur ?
Mentir était vain. Je m'installai dans un fauteuil en face de lui, et tout en piochant dans les plats, je lui confiai le faux pas diplomatique de devoir. Me taire aurait été inutile. La scène avait eu assez de spectateurs pour que l'anecdote parvienne rapidement aux oreilles du fou, si lui-même n'en avait pas été témoin. En revanche, je ne lui dis rien d'Orty. Craignais-je qu'il ne tombât d'accord avec Imbre ? Je l'ignore, mais ce que je sais, c'est que je tenais à garder cette affaire pour moi. Je ne mentionnais pas non plus ce que j'avais vu et entendu par le trou d'observation. Il me fallait du temps pour trier mes réflexions avant d'en faire part à quiconque. Quand j'eus achevé ma relation, il hocha la tête.
Je ne me trouvais pas à la salle de jeu hier soir. J'avais préféré écouter un des ménestrels outriliens qui sont arrivés récemment. Mais l'histoire m'a été rapportée avant que je ne me retire. J'ai déjà reçu une invitation à une promenade à cheval avec le prince ce matin. Veux-tu m'accompagner ?
J'acquiesçai de la tête et le fou sourit. Puis Sire Doré tapota ses lèvres avec sa serviette.
Grand Dieu ! Quelle bourde malencontreuse ! Les potins seront délectables. Je me demande comment la reine et son conseiller s'y prendront pour rétablir la situation.
Il n'existait pas de réponse évidente, mais je savais qu'il profiterait du tumulte pour sonder les loyautés. Nous débarrassâmes la table du petit déjeuner, et je descendis les couverts et la vaisselle aux cuisines, où je m'attardai un moment. Oui, la domesticité parlait de l'affaire. Et il se racontait qu'il n'y avait pas, entre Dame Vanta et le prince, qu'un simple jeu de cailloux. Quelqu'un affirmait déjà les avoir vus un soir ensemble, seuls, dans les jardins enneigés quelques jours plus tôt. Selon une servante, on disait le duc Shemshai satisfait, à tel point qu'il aurait déclaré ne voir aucun véritable obstacle à leur union. Ma gorge se noua. Le duc était un homme influent. S'il décidait de solliciter l'appui de ses pairs pour demander un mariage entre sa nièce et le prince, il risquait de mettre à mal les fiançailles officielles et l'alliance qui en découlait. J'assistais aussi à une scène très brève qui me laissa intrigué. Celle de la domestique de la Narcheska, que j'avais vue peu avant se quereller avec Péotre, franchissant précipitamment les portes des cuisines pour sortir dans la cour. Elle était chaudement vêtue et portait une cape épaisse et de grosses bottes, comme en prévision d'une longue marche par la froide journée qui s'annonçait. Il était certes possible que sa maîtresse l'eût envoyée à Bourg de Castelserre effectuer quelques courses, mais elle n'avait pas de panier au bras. En outre, ce n'était pas le genre de personne, me semblait-il, qu'on eût désignée pour une telle tâche. Je restais à la fois perplexe et inquiet. Si je n'avais pas quasiment promis au prince de l'accompagner en promenade, j'aurais volontiers filé la femme, mais je me résignais à remonter me changer pour la sortie à cheval. Quand je rentrais chez Sire Doré, je le trouvais qui mettait la dernière main à son costume, et l'espace d'un instant, je me demandais si l'aristocratie jamaïlienne se vêtait vraiment de façon aussi voyante. Sa silhouette élancée s'enveloppait de multiples couches de somptueux tissus, et une lourde cape de fourrure l'attendait jetée en travers d'une chaise. Le fou avait toujours mal supporté le froid, et le seigneur Doré partageait apparemment sa frilosité. Il était en train de relever un col de fourrure. D'une main longue et fine, il me fit signe de me rendre promptement dans ma chambre, tandis qu'il s'examinait avec soin dans un miroir. J'aperçus les vêtements posés sur mon lit et protestai.
« Mais je suis déjà habillé. »
« Pas comme je le souhaite. » Il m'a été rapporté que plusieurs jeunes seigneurs de la cour ont embauché eux aussi des gardes du corps, en une pâle imitation de mon style. Il est temps de leur montrer que la copie ne vaut jamais l'original. En tenue, Tom Blaireau.
Je grondais en montrant les dents, et il répondit par un sourire suave. Du bleu de la domesticité, Les vêtements étaient d'excellente qualité et d'une coupe où je reconnus l'art de Scrandon. Sans doute maintenant que le tailleur possédait mes mesures, Sir Doré pouvait-il m'infliger à volonté des garde-robes élégantes. Le tissu était de premier choix et très chaud, et je reconnus là le souci du fou pour mon bien-être. Il avait aussi eu la bonté de prévoir l'habit assez ample pour ne pas gêner mes mouvements. Toutefois, quand je dépliais le bras d'une chemise à la facture curieuse, j'y découvris des incrustations plissées, en camaïeu de bleu, qui donnaient l'impression d'une aile d'oiseau s'ouvrant pour laisser voir les différentes teintes de son plumage. Je remarquai en enfilant le vêtement qu'on y avait cousu à des endroits stratégiques un certain nombre de poches discrètes. J'approuvai cet ajout, tout en regrettant que Sir Doré eût dû l'ordonner au tailleur. J'aurais préféré que nul ne sût que j'avais besoin de ces petites cachettes. Comme s'il percevait mes réticences, Sir Doré déclara depuis le salon. « Vous noterez que j'ai demandé à Scrandon de munir votre tenue de poche afin de vous permettre d'y glisser certains menus objets qui me sont nécessaires, tels que mes fioles de sel, de digestif, mes nécessaires de toilette et ma réserve de mouchoirs. Je lui ai fourni des mesures des plus précises. »
« Bien, monseigneur, » répondis-je d'un ton grave, et j'entrepris de remplir les pochettes selon mes besoins.
C'est en soulevant le manteau d'hiver que je découvris la dernière addition à ma tenue. La garde de l'épée et le fourreau étaient décorés de si voyante façon que j'en fis la grimace. Mais quand je tirai la lame, elle sortit avec un chuintement de mort et elle resta en équilibre parfait, comme un oiseau sur mon index tendu. Avec un soupir, je levai les yeux et vis le fou qui s'encadrait dans la porte. Mon expression ahurie l'amusa et il eut un sourire espiègle. Je secouai la tête. Mes talents d'obretteur ne méritent pas une telle arme.
En effet, tu mériterais d'arborer celle de vérité. Celle-ci n'est qu'une piètre compensation.
Nul remerciement ne pouvait suffire à pareil présent. Je me tus donc et agrafai la ceinture d'épée sur mes hanches devant le fou, qui parut prendre autant de plaisir à me voir la cindre que moi à la porter. Lorsque nous descendîmes dans la cour où devait nous rejoindre le prince, nous y trouvâmes un attroupement plus vaste que je ne m'y attendais. Quelques nobles guettaient déjà l'apparition de devoir. Civil Brezinga était là, en train de s'entretenir avec Dame Vanta. Était-ce mon imagination ou bien avait-elle vraiment l'air mécontente en désignant les chevaux qui l'entouraient et laissait prévoir un groupe beaucoup plus considérable que ce qu'elle espérait manifestement? Deux autres jeunes femmes, des amis proches d'après leur attitude, compatissaient à ces remarques. Tous saluèrent chaleureusement Sir Doré quand il se joignit à la troupe, et je fus soudain frappé par sa jeunesse apparente. On eût dit un bel aristocrate exotique et fortuné d'une vingtaine d'années, à peine plus âgé que ses compagnons. Les femmes se rapprochèrent de lui en bavardant, tandis que trois jeunes gens, dont un parent de Shemshai d'après la forme de ses oreilles, restaient un peu en arrière. Visiblement, Dame Vanta avait déjà sa propre petite cour. Si elle réussissait à gagner le cœur du prince, ses courtisans à la fidélité de fraîche date l'accompagneraient dans son ascension. Plusieurs domestiques tenaient leur monture par la bride. Le juchoir rembourré du marguet de civil, derrière sa selle, était inoccupé. Je ne croyais guère que le jeune garçon eût laissé son animal à Castelmyrte, comme on me l'avait dit. Aucun vifier n'aurait accepté de se séparer de son compagnon aussi longtemps. Non, la bête devait rôder dans les collines environnantes et civil la rejoindre régulièrement. Je résolus de le suivre lors d'un de ses rendez-vous. Une petite confrontation avec son marguet et lui me vaudrait peut-être quelques renseignements sur la communauté du lignage et les liens de civil avec les pies. Mais je n'avais pas le temps de m'apesantir sur la question pour le moment. Je pris les rênes de Manoir et de Malta des mains d'un palefrenier, puis m'armait de patience tandis que Sir Doré s'amalgamait à ceux qui devaient accompagner le prince. La bienséance m'interdisait de dévisager les nobles, mais pas d'examiner leurs montures et d'en déduire qui participerait à la promenade. Une des juments portait une parure si somptueuse qu'elle appartenait sûrement à la reine elle-même. Je reconnus aussi le cheval d'Imbre. Des serviteurs les tenaient au centre du groupe, avec l'animal du prince et trois autres bêtes magnifiquement équipées. L'oncle Péotre et Archon Sangrépé seraient donc de la sortie eux aussi. La jument baie à la crinière ornée de clochettes devait attendre la Narchevska. On entendit soudain un tumulte de conversation et d'éclats de rire près de la grande porte, et les principaux acteurs firent leur apparition. Le prince était éblouissant dans une tenue bleue de serre bordée de renards blancs, emblème de sa mère. La reine avait elle aussi choisi de porter du bleu et du blanc, souligné de rayures jaunes d'or sur sa cape. Pourtant, malgré l'éclat de ses couleurs qui faisait si bien écho à celle de cette journée d'hiver, ses atours présentaient des lignes simples qui contrastaient avec la mode extravagante de sa cour. Élégant, Imbre arborait un costume tout en nuances de bleu et bordé de noir, et ses bijoux étaient exclusivement argentés. Le prince souriait, mais je le devinais mortifié à la façon dont il demeura en haut des marches à échanger des propos avec sa mère et Imbre au lieu de se joindre à ses compagnons de son âge. Il ne laissa entendre à personne que la sortie constituait le gage d'un pari inconséquent. En passant ce détail sous silence, il espérait peut-être en diminuer l'importance aux yeux de ceux qui l'entouraient. Dame Vanta lui souriait au pied de l'escalier et capta son regard un instant. Il la salua courtoisement de la tête, mais ses yeux se portèrent aussitôt sur Civil, à qui il adressa un salut exactement semblable, et je crus voir les joues de Dame Vanta rosir. Il attendit qu'Imbre et la reine commencent à descendre les degrés pour leur emboîter le pas, et il resta aux côtés de sa mère. Plusieurs nobles marchands outriliens apparurent ensuite en compagnie d'Arcon Sangrépé. Ils avaient adopté les styles vestimentaires les plus débridés de Castelserre. Dentelles et rubans flottaient dans leur sillage comme des oriflammes. Les épaisses fourrures de leur terre natale avaient cédé la place aux plus beaux tissus de Terrilville, de Jamaïlia, voire de ports plus lointains. Kétriken, Imbre et Devoir les accueillirent avec effusion. On échangea des aimabilités, des remarques sur le temps magnifique, des compliments sur les garde-robes et d'autres civilités tandis qu'on attendait la Narcheska et Péotr. Et l'attente fut longue. C'était un artifice manifeste, mais bien que je ne fusse pas dupe, il mit pourtant mes nerfs à vif. Kétriken ne cessait de jeter des coups d'œil vers la porte, et le rire de Devoir en réponse aux plaisanteries d'Imbre paraissait forcé. Arcon se renfrogna et glissa d'un ton brusque quelques mots à un homme à ses côtés. Le retard de la Narcheska devint tel que la même idée nous vint à tous. C'était ainsi qu'elle montrait son mécontentement à Devoir. Elle comptait l'humilier devant ses amis et sa famille en l'obligeant à se morfondre en l'attendant. Si elle mettait son propre père dans l'embarras aux yeux de la reine, des frictions risquaient-elles d'en être? Enfin, alors qu'Imbre et Kétriken s'entretenaient pour savoir s'il fallait envoyer un domestique s'enquérir de la participation de la Narcheska à la sortie, Péotr apparut. À l'inverse des autres Outriliens, il était revenu à la mode de ses îles natales. Pourtant, on ressentait en le voyant non une impression de barbarie, mais de pureté. Son pantalon était de cuir, sa cape d'opulente fourrure, ses bijoux d'ivoire, d'or et de jade. La simplicité de sa ligne laissait entendre qu'il était prêt à monter à cheval, chasser, voyager ou se battre sans qu'aucune fanfreluche l'embarrasse. Il se présenta sur les marches au-dessus de nous et s'y arrêta comme au centre d'une scène. Il ne paraissait nullement réjoui de se trouver là, mais son visage exprimait la détermination. Comme il demeurait immobile, les bras croisés, le silence tomba sur l'assistance et tous les yeux se portèrent sur lui. Alors, il prit la parole d'un ton affable, mais qui interdisait toute interruption. « La Narcheska me charge d'annoncer que l'âge se calcule autrement qu'ici dans les runes du Dieu. Elle craint que l'ignorance de ce fait n'ait induit certaines personnes à se méprendre sur son statut dans notre peuple. Ce n'est plus une enfant, selon nos critères, ni d'ailleurs selon les vôtres, je pense. Dans nos îles, où la vie est plus âpre que sur votre terre clémente et hospitalière, nous estimons de mauvais augure de compter un enfant comme membre d'une famille pendant les 12 premiers mois où sa petite existence risque de s'étioler trop facilement. Nous ne lui donnons pas non plus de nom tant que cette année critique n'est pas écoulée. Par conséquent, selon le calcul des runes du dieu, la Narcheska n'a que 11 ans. Bientôt 12. Mais selon votre calendrier, elle en a 12. Et approche des 13. Elle a presque le même âge que le prince Devoir. » La porte s'ouvrit derrière lui. Nul domestique ne la tenait, et la Narcheska la referma elle-même une fois sortie. Elle alla se placer à côté de Piotr, vêtue semblablement à lui. Elle avait rejeté les atours raffinés de Castelserre et portait un pantalon en peau de phoque tacheté, avec une chemise en renard roux. La cape qui tombait de ses épaules jusqu'à ses genoux était en hermine blanche, ornée des petites extrémités noires de la queue en guise de gland. Eliania nous adressa un sourire glacial et releva sa capuche. La bordure était en poil de loup. En nous observant les yeux dans son ombre, elle déclara
« Oui, j'ai presque le même âge que le prince de Voir. Dans notre pays, nous calculons autrement le nombre des années. Il en va de même pour le rang. On ne m'a baptisé et on n'a pris en compte mes jours qu'à mon premier anniversaire, mais j'étais déjà la Narcheska. Le prince de Voir, lui, ne deviendra pas roi, si j'ai bien compris, ni même roi servant de sa couronne avant ses 17 ans. Est-ce exact ?» Elle s'adressait à Ketriken, l'air interrogatif, debout en haut des marches au-dessus de la reine. L'intéressé lui rendit son regard sans se démonter et répondit « C'est exact, Narcheska. On ne considérera mon fils comme prêt à recevoir ce titre qu'au jour de ses 17 ans. » « Je vois. C'est une intéressante différence avec les coutumes de mon pays. Peut-être accordons-nous plus de foi chez moi à la force du sang. Une enfant nouveau-née est déjà celle qu'elle deviendra plus tard, et on la juge digne de porter son titre dès son premier souffle, tandis que vous, dans votre monde de fermier, vous attendez de voir si la lignée est restée pure. Je vois. »
Impossible de prendre cette déclaration pour une véritable insulte. Avec son accent étranger et sa formulation curieuse, Eliania avait peut-être simplement employé par erreur une tournure malheureuse pour exprimer sa pensée. Mais j'étais convaincu du contraire, tout comme je suis persuadé qu'elle comptait bien que fussent entendus par tous les propos qu'elle tint à mi-voix, mais de façon tout à fait audible à Piotr en descendant les marches. Dans ces conditions, il vaudrait peut-être mieux que je n'épouse pas le prince tant qu'on n'est pas sûr qu'il deviendra roi. Nombreux sont ceux qui espèrent s'asseoir sur le trône, mais trébuchent avant d'y parvenir. Ne devrait-on pas repousser le mariage proprement dit jusqu'au moment où son peuple le jugera digne de régner ? Le sourire de Ketriken ne vacilla pas, mais son regard devint fixe, et les yeux d'Imbre se plissèrent brièvement. De Voir, lui, ne put contenir le rouge brûlant qui envahit ses joues. Il demeura silencieux, son humiliation visible par tous. Il me sembla qu'Eliania avait parfaitement exécuté sa vengeance. Elle lui avait retourné à peu près le même camouflet qu'il lui avait infligé, et devant un public similaire. Toutefois, si je croyais qu'elle en avait terminé avec lui, je me trompais. Quand galamment il s'approcha d'elle pour l'aider à se mettre en selle, elle l'écarta de la main en disant « Permettez à mon oncle de s'en charger. C'est un homme d'expérience tant avec les chevaux qu'avec les femmes. Si j'ai besoin de soutien, c'est entre ses mains que je trouverai le meilleur appui. » Néanmoins, lorsque Piotr s'avança, elle lui assura en souriant être en mesure de monter seule. « Car je ne suis plus une enfant, comme tu le sais. » Et elle joignit le geste à la parole, bien que sa monture fût certainement beaucoup plus grande que les petits poneys rablés en usage dans les îles d'outre-mer. Une fois en selle, elle se porta aux côtés de Ketriken pour converser avec elle. La beauté simple de leur atour offrait un contraste saisissant avec la splendeur et l'extravagance vestimentaire du reste de la troupe. En les voyant, on avait l'impression non seulement qu'elles allaient parfaitement ensemble, mais qu'elles seules avaient adopté une attitude sensée en prévision d'une promenade à cheval un jour d'hiver. L'une comme l'autre, si sa monture se mettait à boiter, serait en mesure de retourner facilement au château à pied. À côté d'elle, sans qu'elle l'eussent voulu, les aristocrates aux parures et aux chapeaux somptueux paraissaient ridicules et frivoles. Une réflexion me vint qui me fit plisser le front. En choisissant une tenue aussi dépouillée que celle de Ketriken, tout en demeurant fidèle aux traditions de son peuple, la Narcheska s'affirmait l'égale de notre reine. Le prince de Voir lança un regard à ses jeunes amis. Je le vis croiser celui de Civil, qui haussa les sourcils, la mine interrogatrice. Mais retenu par le coup d'œil sévère de sa mère, le prince prit place à la gauche de la Narcheska. La jeune fille fit à peine attention à lui. Les rares occasions où elle se tourna pour lui adresser une remarque Ce fut de l'air de quelqu'un qui s'efforce d'inclure un étranger à la conversation, et il n'eut guère le temps d'y contribuer que d'un sourire ou d'un hochement de tête avant qu'elle ne se désintéresse de lui. Derrière le trio venait Ambre, encadré par Arcon Sangrépé, et Péotre Onde Noire. Sire Doré s'insinua parmi les amis du prince, et je restai à sa suite un peu en retrait. Les jeunes gens formaient un groupe compact et bavard. Devoir sentait certainement leur regard posé sur lui, et devinait la teneur de leurs propos, la façon dont sa fiancée l'avait mouché, et le fait qu'elle préférait parler à sa mère plutôt qu'à lui. Avec une habileté consommée, Sire Doré se montrait transparent à leurs échanges, les encourageant par son intérêt manifeste, mais sans y insérer la moindre remarque qui pût en modifier l'orientation. J'observais que Dame Vanta, bien qu'enjouée avec ses amis et attentive à Sire Civil, posait souvent les yeux d'un air songeur sur le prince mortifié. Obéissait-elle à ses propres ambitions, ou bien à celles de son oncle, le seigneur Shemshai? Je connus un instant de stupeur quand Devoir, franchissant brutalement mes murailles, s'imposa dans mes pensées.
« Je ne mérite pas un tel traitement. J'ai commis une erreur purement accidentelle, mais elle se conduit comme si je l'avais humiliée exprès. J'en viens presque à regretter que ce ne soit pas le cas. »
Ce contact imprévu m'ébranla violemment, mais le pire fut de voir Sire Doré tressaillir sous le choc. Il se retourna vers moi, les sourcils levés, comme s'il croyait que je lui avais parlé. Et sa réaction ne fut pas isolée, bien qu'elle restât la plus visible. Plusieurs cavaliers se mirent à jeter des regards alentour, comme en réponse à un cri lointain. Je repris mon souffle, concentrai mon attention jusqu'à la taille d'une tête d'épingle, et répondis au prince.
« Silence ! Maîtrisez vos émotions et ne recommencez jamais.
Eliania n'a aucun moyen de savoir que vous ne l'avez pas insultée de façon intentionnelle. » Et d'autres qu'elles peuvent parfaitement partager son opinion. Voyez l'attitude des jeunes femmes qui entourent Civil. Mais pour le moment, n'oubliez pas ceci. Vous dominez mal votre art quand vous êtes la proie de vos émotions. Évitez de l'utiliser dans ces occasions. Le prince courba le cou sous ma sévère réprimande. Je le vis inspirer profondément, puis redresser les épaules et se tenir plus droit dans sa selle. Il balaya les environs du regard comme s'il savourait la beauté de la journée. Radouci, je tentais de le consoler un peu. Je sais que vous ne méritez pas ça. Mais parfois un prince, ou n'importe qui d'ailleurs, doit supporter ce qu'il n'a pas mérité, tout comme Eliania hier soir. Efforcez-vous à la patience et acceptez l'épreuve. Il hocha la tête comme s'il réfléchissait à part lui, puis répondit à une brève remarque de la Narcheska. La promenade dans les champs enneigés ne dura guère, quoiqu'elle parut sans doute interminable à Devoir. Il supporta bravement son châtiment, mais, quand le moment vint de mettre pied à terre, nos regards se croisèrent et je lus du soulagement dans le sien. Voilà, c'était fini. Il avait expié sa gaffe de la nuit précédente et tout allait revenir à la normale. J'aurais pu le prévenir que ce n'était jamais le cas. Il descendit de cheval et la Narcheska atterrit souplement près de lui avant qu'il pût lui offrir son aide. Elle se détourna de lui et il prit les rênes de sa mère pour dissimuler son humiliation. Sans vergogne, Eliania s'approcha de la reine encore en selle et lui tendit la main. Ketriken ne put la refuser, ni faire la sourde oreille à la conversation de la jeune femme, qui demeura près d'elle tandis que la troupe rentrait dans le château. Encore une fois, Devoir se retrouva derrière elle, oublié. Malgré mes murailles mentales désormais toujours dressées, je percevais sa gêne et sa colère, et j'en éprouvais de la compassion. Toutefois, le professeur que j'étais songeait qu'il devrait apprendre à mieux maîtriser ses émotions. Un divertissement avait été prévu pour l'après-midi, une pièce jouée par des personnes costumées, à la jamaïlienne, et non par des marionnettes. J'avais peine à imaginer comment c'était réalisable. Mais Sire Doré m'avait assuré qu'il avait assisté à de nombreuses représentations de ce type dans les cités du Sud, et qu'il existait quantité de moyens pour détourner l'attention des spectateurs des défauts de cet art. Il avait paru se réjouir fort à la perspective de cette distraction, et encore plus à l'arrivée du navire qui amenait les comédiens. La guerre qui continuait d'opposer Terrilville à Calcède restreignait considérablement le transport des voyageurs et des marchandises. Cependant, la flotte calcédienne avait dû se faire provisoirement repousser, car deux vaisseaux venus du sud étaient entrés au port ce jour-là, et l'on disait que d'autres les suivaient. J'avais vu le visage de Sire Doré s'illuminer à ces nouvelles. Devant ses amis, il traitait la guerre par le mépris en la qualifiant de fâcheux contretemps qui interrompait son approvisionnement en eau-de-vie d'abricot, mais j'avais remarqué que les navires qui échappaient aux patrouilles chalcédiennes lui apportaient non seulement de l'alcool, mais souvent aussi des paquets de lettres qu'il emportait aussitôt dans sa chambre. Je le soupçonnais de ne pas se soucier que de sa réserve de cordial et de son argent, mais il ne disait rien du contenu des missives, et je me gardais bien de l'interroger. Manifester trop de curiosité était le meilleur moyen de pousser le fou à taire ce qu'il savait. Je passai donc l'après-midi debout, près de lui, dans la pénombre de la grande salle, dont on avait fermé les tentures pour la pièce de théâtre. L'histoire, typiquement jamaïlienne, ne parlait que de prêtres, de nobles et de complots. À la fin, la divinité biphase des gens du Sud apparaissait pour rétablir l'ordre et rendre la justice. Le spectacle me laissa plus perplexe qu'amusé, car je ne parvenais pas à m'habituer à voir des gens jouer plusieurs rôles. Une marionnette ne possède pas d'identité propre, sinon celle pour laquelle on l'a créée. Je trouvais donc déconcertant de reconnaître dans le domestique l'homme qui, un peu plus tôt, jouait un acolyte. J'avais du mal à me concentrer sur l'intrigue, et cela ne tenait pas seulement à ce que je n'arrivais pas à oublier que les comédiens n'étaient que des gens qui faisaient semblant d'en être d'autres. La détresse du prince s'étalait autour de lui, tel un miasme qui venait lécher mon esprit dans la salle obscure. Il ne l'artisait pas exprès. Elle sourdait de lui comme l'humidité d'une outre pleine. Sur la scène, les comédiens gesticulaient, criaient et prenaient des poses, mais le prince, assis à côté de sa mère, macérait seul et malheureux dans sa gêne et son humiliation. Au cours du mois écoulé, la gaieté nouvelle qui s'était emparée de Castelserre lui avait permis de connaître de nombreux jeunes gens de son âge, et par le biais de civil, il avait commencé à découvrir les plaisirs de la camaraderie et de la séduction. Or, voici qu'il devait trancher tous ses liens en soumission à l'alliance politique que sa mère s'efforçait de forger. En lui s'affrontait, je le sentais, un sentiment d'injustice et une compréhension intellectuelle des besoins du royaume. S'unir à la Narcheska et Liania par le mariage ne suffisait pas. Il devait donner l'apparence que cette union relevait de son choix. Or, c'était faux. Plus tard, en fin d'après-midi, Sire Doré m'accorda quelques heures de congé. Je remis une tenue confortable et descendis à bourg de Castelserre, au port coincé. Après ce dont j'avais été témoin au château, je me sentais une plus grande tolérance à l'égard de l'amourette échevelée de Heure. Peut-être, me disais-je en marchant sous la neige, un équilibre se trouvait-il rétabli dans le monde du fait que Heure pouvait se laisser aller librement à ce qu'on interdisait au prince. La taverne était calme. Je m'y rendais assez souvent pour en reconnaître les clients réguliers. Ils étaient présents, mais je ne vis guère d'autres visages. Sans doute les rafales de neige et la tourmente qui forcissait décourageaient-elles beaucoup de gens de sortir de chez eux. Je parcourus la salle des yeux sans repérer Heure, et je sentis un petit espoir s'allumer en moi. Peut-être était-il déjà rentré se coucher. Peut-être la nouveauté de la vie citadine commençait-elle à s'estomper, et apprenait-il à organiser son existence de façon plus raisonnable. Je m'assis dans le coin favori de Heure et Svania, et un garçon m'apporta une bière. Ma rêverie s'acheva brutalement à l'entrée d'un homme rougeau, d'âge moyen. Il ne portait ni manteau, ni cape, ni chapeau, et ses cheveux sombres étaient parsemés de flocons. Il secoua rageusement la tête pour débarrasser ses cheveux et sa barbe de la neige et des gouttes d'eau qui y restaient accrochées. Puis il jeta un regard furieux vers l'angle de la pièce que j'occupais. Il parut surpris de m'y trouver. Il se tourna vers le tavernier à qui il posa une question à voix basse, mais d'un air irrité. L'homme haussa les épaules, alors le nouveau venu serra les poings et réitéra sa demande. Et son interlocuteur lui répondit en hâte, en me désignant de la main. L'homme me regarda, les yeux plissés, puis se dirigea vers moi à grands pas. Je me levai à son approche en maintenant prudemment la table entre nous. Il abattit ses deux poings sur la surface éraflée du bois et lança.
« Où sont-ils ? »
« Qui ça ? » répondis-je. Mais ma gorge s'était nouée. Je savais de qui il parlait. Svania avait le front de son père.
« Vous le savez très bien. D'après le tavernier, vous vous êtes déjà donné rendez-vous ici. Je parle de ma fille Svania et de ce paysan aux yeux de démon qui l'a séduite et arrachée au foyer de ses parents. C'est votre fils, à ce que dit le patron. »
Au ton qu'employait Maître Cordaguet, Ce n'était pas un compliment. Il a un nom, il s'appelle Ur, et c'est mon fils, en effet. La colère m'avait saisi aussitôt, mais une colère froide et claire comme la glace. Je déplaçai légèrement mon poids pour dégager ma hanche. S'il essayait de franchir la table pour m'attaquer, mon poignard l'attendrait.
« Votre fils !» fit-il avec mépris. « À votre place, j'aurais honte d'être son père. Où sont-ils ?»
Et tout à coup, derrière sa fureur, je le sentis aux abois. Ainsi, Svania ne se trouvait pas chez elle, ni à la taverne en compagnie de Ur. Où pouvait-il bien se cacher par une nuit noire battue par la neige ? Quant à ce qu'il faisait, je ne me berçais guère d'illusions. Malgré mon accablement, je déclarai à mi-voix. J'ignore où ils sont, mais je n'ai pas honte de reconnaître Ur comme mon fils, et je ne pense pas qu'il ait séduit votre fille. S'il faut adresser des reproches à quelqu'un, c'est plutôt à votre Svania qui enseigne à mon fils les mauvaises mœurs de la ville.
« Je ne vous le permets pas !»
s'écria-t-il en brandissant un poing charnu. Baissez la voix et la main, fis-je d'un ton glacé. La voix, pour sauvegarder la réputation de votre fille. La main, pour sauvegarder votre vie. La posture que j'avais prise attira son regard sur mon épée de service. Sa colère ne s'apaisa pas, mais elle se tempéra visiblement de prudence. « Asseyez-vous, lui dis-je, et c'était autant un ordre qu'une suggestion. Reprenez-vous et parlons entre pères de nos soucis communs. » Lentement, il tira une chaise sans me quitter des yeux un instant. Je me rassis avec la même circonspection, puis j'adressai un geste au patron. Nous étions au centre de l'attention des autres clients. Cela ne me plaisait pas, mais je n'y pouvais pas grand-chose. Peu après, un jeune garçon vint poser une chope pleine devant Maître Cordaguet, puis s'éloigna promptement. Le père de Svania regarda la bière avec dédain.
« Vous croyez vraiment que je vais rester ici à trinquer avec vous ? Il faut que je retrouve ma fille le plus vite possible. »
« J'en déduis qu'elle n'est pas chez vous avec votre femme. »«
Non !»
Il pinça les lèvres, et je sentis les égratignures de son amour-propre dans ses propos suivants.
Svania a dit qu'elle allait se coucher dans sa chambre de la soupente. Un peu plus tard, j'ai remarqué un travail qu'elle n'avait pas terminé. Je l'ai appelée pour qu'elle descende l'achever, et comme elle ne répondait pas, j'ai monté l'échelle. Elle n'était plus là.
Cette dernière phrase parut désamorcer sa colère et le laisser face à sa déception et ses craintes de père.
« Je suis venu aussitôt à la taverne !»
Sans prendre le temps d'enfiler un manteau, ni de mettre un chapeau. Je comprends. Ne pourrait-elle se trouver ailleurs, chez une grand-mère, une amie ?
Nous n'avons pas de famille à Bourg-de-Castelserre. Nous ne sommes arrivés que le printemps dernier, et Svania n'est pas du genre à fréquenter d'autres filles.
À chaque mot, sa colère semblait l'abandonner un peu plus, et le désespoir le gagnait. Un soupçon me vint alors. Ur n'était pas le premier jeune homme dont sa fille s'entichait, et ce n'était pas la première fois qu'il devait la chercher partout à la nuit tombée. Je gardais mes réflexions pour moi, saisis ma chope et la vidais. Je ne vois qu'une seule autre maison où ils auraient pu se rendre. Venez, nous irons ensemble. C'est là que loge mon fils pendant que je travaille au château. Sans toucher à sa bière, il se leva et nous quittâmes la taverne sous les regards curieux des autres clients. Dehors, les tourbillons de neige étaient plus violents. Il rentra la tête dans les épaules et serra les bras sur sa poitrine. En forçant la voix pour me faire entendre malgré le vent, je posai une question que je redoutais, mais dont je devais connaître la réponse.
« Vous vous opposez complètement à ce que Ur courtise votre fille ?»
L'obscurité me cachait son visage, mais j'entendis l'éclat scandalisé de son ton.
« Si je m'y oppose, mais bien sûr, il n'a même pas eu le courage de se présenter à moi, de me dire son nom ni de déclarer ses intentions, et s'il l'avait fait, je m'y opposerais toujours. » Il se prétend apprenti. Si c'est vrai, pourquoi n'habite-t-il pas chez son maître? Et s'il est bien apprenti, quelle lubie est-ce là de courtiser une femme avant même d'être en mesure de gagner sa propre vie? Il n'a pas le droit, il ne convient pas du tout à Svania. »
Il n'avait pas parlé des yeux verrons de Ur, mais c'était inutile. En aucun cas mon fils ne trouverait grâce au regard de cet homme. Nous n'eûmes pas longtemps à marcher pour parvenir chez Gina. Je frappai à la porte, aussi anxieux à l'idée de la revoir qu'à celle de ne pas trouver Ur et Svania chez elle. Un moment passa, puis Gina demanda derrière le battant.
Qui est là ?
Tom Blaireau, répondis-je, et le père de Svania. Nous cherchons mon fils et sa fille. Elle n'ouvrit que la moitié supérieure de sa porte, ce qui indiquait clairement la piètre estime dans laquelle elle me tenait désormais, et s'adressa à Maître Cordaguet.
« Ils ne sont pas ici, » fit-elle d'un ton sec, « et je ne les ai jamais laissés ensemble chez moi. Malheureusement, je ne peux pas empêcher Svania de venir ici chercher Heur. »
Elle se tourna vers moi avec une expression de reproche.
« Je n'ai pas vu Heur de toute la soirée. »
Elle croisa les bras. Souligner qu'elle m'avait prévenu était superflu. L'accusation se lisait clairement dans ses yeux. Tout à coup, je ne pus plus soutenir son regard. « Il faut que je me mette à sa recherche alors, » marmonnai-je confus. Je me sentais aussi honteux de ma conduite que de celle de Heur. J'avais fait du mal à Gina, et je me retrouvais brusquement face à elle. La vérité me transperça comme une lance. Je ne l'avais pas évitée pour de grands et nobles motifs, mais par simple peur, parce que je savais qu'elle deviendrait une facette de ma vie dont la maîtrise m'échapperait, à l'instar de Heur.
« Qu'il soit maudit ! Il ruine l'existence de ma fille !»
s'exclama Cordaguet, furieux à nouveau. Il fit demi-tour et s'éloigna d'un pas mal assuré dans les tourbillons de neige. Puis, à la limite de la lumière qui s'échappait par la porte ouverte, il s'arrêta pour me menacer du poing.
« Qu'il ne s'approche plus d'elle ! Débrouillez-vous comme vous voulez, mais je ne veux plus de votre démon de fils auprès de Masvania !»
Et il repartit, disparaissant en quelques pas dans les ténèbres et le désespoir. J'aurais voulu le suivre, mais je me sentais comme pris au piège dans la lumière. Je rassemblais mon courage. « Gina, je dois chercher Heur, mais je pense...
Tu sais aussi bien que moi que tu ne les retrouveras pas, ni lui, ni Svania. Ils ne tiennent certainement pas à ce qu'on les dérange. »
Elle s'interrompit, mais, avant même que j'aie le temps d'ouvrir la bouche, elle reprit d'un ton égal.
« Et Rory Cordaguet a raison, je crois. Tu devrais empêcher Heur de fréquenter Svania, pour le bien de tous. Maintenant, comment t'y prendre ? Je l'ignore. » Il aurait mieux valu commencer par ne pas laisser ton fils partir à la dérive, Tom. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour lui.
C'est un bon petit, dis-je comme par réflexe, mauvaise excuse d'un homme qui a négligé son enfant.
En effet, c'est pourquoi il mérite mieux de ta part. Bonne nuit.
Elle ferma sa porte et me coupa de sa lumière et de sa chaleur. Je restais dans le noir, balayé par le vent glacé. Des flocons s'insinuaient dans mon col. Je sentis un contact doux contre mes chevilles.
« Ouvre la porte, le chat veut rentrer. »
Je me baissai pour le caresser. Sa fourrure était parsemée de neige, mais tiède au toucher. « Tu devras te débrouiller, fenouille. Elle ne s'ouvre plus pour moi. Adieu. »
« Idiot, il suffit de demander comme ça. »
Et il se dressa sur ses pattes arrière pour griffer le battant avec application, tout en miaulant. Ses appels me suivirent tandis que je m'éloignais dans la nuit et le froid. Au bout d'un moment, j'entendis la porte s'ouvrir et se refermer aussitôt. On l'avait laissé entrer. En prenant la route du château de Castelserre, je regrettais de ne pas être à la place du chat.